Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire. Rire.
Bien dormir.
Bouger. Faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette au micro pour cette émission de C'est bon pour la santé. Pendant les 30 prochaines minutes sur Canal M, est-ce que vous saviez que Michael Jackson, qui est bon, malheureusement décédé il y a de ça quelques années, souffrait de vitiligo? On l'accusait à tort de s'être fait blanchir la peau, même s'il démentait ces propos-là. Et pourtant, ben, c'était cette maladie de la peau qui, vous le savez peut-être, est à l'origine d'une décoloration de la peau, donc de taches blanches qu'on peut avoir sur plusieurs endroits. Les gens qui vivent avec le vitiligo, j'en connais pas personnellement, mais ce qu'on m'a dit, par exemple, c'est qu'ils sont souvent stigmatisés, n'ont pas nécessairement envie beaucoup d'en parler, préfèrent se cacher. Et il y a Arielle Paco, organisatrice d'un événement qui se tiendra le 14 novembre, La peau dans tous ses états, qui souhaite rassembler ces gens-là pour leur offrir une voix. Je lui parle en deuxième partie d'émission. Mais d'abord, le trouble obsessionnel compulsif qu'on connaît aussi sous le nom de TOC, qui touche environ 750 000 personnes au Canada. Ça touche autant des hommes, des femmes, des gens de tous âges, finalement. Souvent mal compris encore, mal reconnu et peut-être sous-traité. Ce que je lisais, c'est qu'il y a beaucoup d'intervenants de la santé, des spécialistes de la santé qui ne sont pas nécessairement familiers avec les symptômes, qui donc ont du mal parce que par manque de formation appropriée à fournir un traitement adéquat aux gens qui sont touchés par le trouble obsessionnel compulsif. Donc, il y a une journée, la journée annuelle du trouble obsessionnel compulsif qui se tient samedi 15 novembre et j'en parle davantage dans quelques instants avec Annie Surprenant. Elle est étudiante en doctorat, au doctorat en psychologie. Et également Karine Bergeron, elle, coordonnatrice du Centre d'études sur les troubles obsessionnels compulsifs, les TIC, de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Et les deux viendront également nous parler de la Fondation québécoise pour le trouble obsessionnel compulsif. Bonjour, mesdames.
Bonjour. Bonjour.
Merci d'être là.
Merci.
Donc, Karine.
Oui.
Et Annie.
Bonjour.
Cette journée-là du 15 novembre, qui se tiendra d'ailleurs à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, est-ce qu'elle vise justement à sensibiliser les professionnels de la santé aux troubles obsessionnels compulsifs? Est-ce que ça servira à ça?
Entre autres, ça sert à faire connaître la maladie auprès des professionnels de la santé, mais aussi aux personnes qui sont atteintes puis qui ne peuvent pas en parler autour d'eux ou qui viennent d'apprendre qu'ils sont atteints de cette maladie-là. Aussi, les proches qui vivent avec ces personnes-là ou qui ont des connaissances, à un peu démystifier c'est quoi la maladie. Mais la journée se veut surtout là, de donner des outils concrets puis aussi à la fine pointe de ce qui est fait en recherche, là, étant donné que nous, on est très près de la recherche puis on se spécialise dans ce trouble-là depuis au moins une vingtaine d'années. Mm-hmm. On l'étudie très en profondeur, donc on va donner aux gens là, l'information la plus à jour possible là, pour les aider face à cette problématique-là.
Donc, ouvert à tous.
Mmh. Ouvert gratuit. À tous, c'est gratuit, mmh. Donc c'est fantastique.
J'ai déjà fait des émissions sur le trouble obsessionnel compulsif, donc on avait parlé des symptômes, des causes, tout ça. Mais pour quand même remettre le sujet, c'est quand même notre sujet du jour, remettre un peu sur la table, j'aimerais ça que l'une de vous deux m'explique on se sent comment quand on vit avec un trouble obsessionnel compulsif dans notre tête, comment ça s'articule?
En fait, faut savoir que le trouble obsessionnel compulsif, c'est quand même compliqué. Il existe une diversité de types de troubles mm-hmm. obsessionnels compulsifs. Donc, de savoir exactement qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une seule personne qui en souffre, ça peut être compliqué. Je vais prendre un exemple typique de quelqu'un qui souffre de vérification, c'est-à-dire qui constamment se sent obligé d'aller vérifier certains objets, comme les thermostats, les ronds de poêle, les portes de la maison, en avant, en arrière, les robinets, ça peut être des portes d'auto. Tout peut prendre, en fait, la forme de vérification. Et ici, il faut faire attention car je vais énormément caricaturer, mais ce qu'on peut en fait comprendre, c'est qu'il va y avoir une pensée, un doute qui va apparaître dans l'esprit de la personne. Est-ce que j'ai oublié de fermer la porte ou fermer quelque chose? Et ce qui va se passer, c'est que ce doute-là va revenir sans cesse et sans cesse. L'anxiété va augmenter de plus en plus et ça va être excessivement difficile à vivre. Donc, la personne va commencer à avoir des conséquences anticipées. Qu'est-ce qui pourrait arriver si jamais la porte n'est pas bien parée? Je pourrais me faire cambrioler, ça va être de ma faute, je vais perdre des biens importants. Si j'ai un animal domestique, peut-être qu'il va s'enfuir. Alors, l'anxiété continue à augmenter et ça va atteindre un niveau où est-ce que la personne va se sentir obligée de revenir sur ses pas, aller vérifier.
Et quitte à un moment donné, rester à la maison pour être sûr qu'il ne se passe rien du tout. Là,
exactement.
Et rester isolé. Bien sûr, Annie, je ne peux pas m'empêcher de vous demander, ça nous arrive tous. À un moment donné, ou lors de faire 200 mètres au sortie de la maison, sortir de la maison, faire 200 mètres, puis dire « Ah, j'ai oublié telle chose, revenir finalement, c'est pas le cas », puis bon, être un petit peu plus anxieux qu'à l'habitude. On fait comment pour faire un diagnostic? Parce que ça m'amène à dire... à faire un retour sur ce que je disais tout à l'heure. Les professionnels ont du mal à faire un diagnostic, peut-être parce que la marge est un peu floue.
En fait, la différence, c'est au niveau du doute qui est réel et du doute qui est obsessionnel. Le doute réel, c'est comme vous l'aviez mentionné, n'importe qui peut avoir à un moment un doute sur « est-ce que j'ai peut-être vraiment oublié de fermer la porte? » Dans le cas de quelqu'un qui souffre de troubles obsessionnels compulsifs, c'est que ça va devenir obsessionnel.
Ouais,
la personne va remettre en doute sa propre vérification. Donc, ça fait peut-être quelques secondes qu'elle a pris la peine de vérifier la poignée de porte, vérifier la serrure, et elle se met à douter encore et encore. Oui, mais peut-être que le mécanisme à l'intérieur de la serrure y est défectueux. Et à ce moment-là, oui, je l'ai vérifié en apparence, mais non, c'est irréel. À ce moment-là, la porte n'est pas bien barrée. Donc, c'est quand la personne qui souffre de TOC devient à douter continuellement de ses propres vérifications, de ses propres actions. Et c'est vraiment pourquoi la personne est dans un cercle vicieux continuellement.
Et ça prend toute la place.
Toute la place.
Oui. Karine, vous travaillez depuis des années autant au centre d'études qu'à la fondation. C'est vous, des fois, qui prenez les appels quand les gens appellent en détresse pour poser des questions. Qu'est-ce qui est dit la plupart? Qu'est-ce que vous entendez comme phrase? D'abord, est-ce que c'est plus les gens qui en souffrent qui appellent ou leurs proches parce qu'ils sont désespérés et qu'ils ne saisissent pas ce qui se passe dans l'environnement?
Bien, c'est beaucoup des deux. De plus en plus, là, heureusement, on a des gens qui en souffrent, qui nous appellent. Puis quand ils nous appellent, c'est parce qu'ils cherchent un traitement.
Ouais.
C'est sûr que nous, c'est de la recherche. Là, au niveau du CETOC, le centre d'études, c'est de la recherche. Donc, c'est des gens qui connaissent leurs troubles, ils ont été diagnostiqués. Et puis là, ils cherchent de l'aide, puis ils ont de la difficulté, là, effectivement, d'en trouver parce que, comme vous disiez, il n'y a pas beaucoup de professionnels qui connaissent bien la problématique et qui sont capables d'offrir un traitement qui est adapté à ces gens-là. Donc, souvent, ce qu'ils vont nous dire, c'est que c'est difficile dans le quotidien de vivre avec cette maladie-là parce que c'est sûr que, tu sais, une personne normale trouve ça difficile présentement dans le monde d'aujourd'hui de vivre dans le quotidien. On trouve qu'on est débordé. Bien, s'il faut en plus qu'on rajoute une heure, deux heures, trois heures parfois, bien là, on peut, comme je pense, clairement imaginer là, comment est-ce que ça peut être encombrant pour une personne. Puis la même chose pour les proches. Là, souvent, les proches, c'est qu'ils se sentent tellement impuissants devant la souffrance parce que la différence d'un doute normal, une personne qui va vérifier de versus une personne, c'est qu'il y a une souffrance immense qui est associée, puis une détresse. La personne, elle n'est pas bien dans ce qu'elle vit. Puis un proche qui voit ça, puis lui, il trouve ça très irraisonné, mais en même temps, il voit toute la souffrance face à ça. C'est très difficile à vivre.
Et l'impuissance également.
Oui, il y a beaucoup d'impuissance, puis ils veulent vraiment les aider dans leur démarche et tout. Donc, les appels, c'est souvent ça, c'est de vouloir mettre un peu fin à cette détresse-là, puis à cette souffrance-là, puis trouver une solution pour mieux vivre et être plus heureux, finalement.
C'est possible de bien vivre avec un trouble obsessionnel compulsif?
Oui, tout à fait. Il y a des études qui montrent des traitements qui sont efficaces. Ça peut être une combinaison de traitements, la psychothérapie ou la médication. Mais il y a des gens qui s'en sortent, qui, oui, il va y avoir des périodes de recrudescence ou des périodes où est-ce qu'on va moins bien, mais qui tout de même se marient, ont des enfants, un emploi stable. Et dans le cadre de notre journée, on invite les gens à communiquer, à partager. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est de savoir qu'il y a une possibilité de s'en sortir et que les gens sont pas seul. Oui. Donc, ça, c'est intéressant.
Pourquoi c'est si difficile à diagnostiquer?
C'est difficile à diagnostiquer parce que ça ressemble aussi à d'autres troubles. Par exemple, au niveau des obsessions, compulsions, ça peut être mélangé avec le trouble d'anxiété généralisée. L'hypochondrie, là, quand on parle des maladies, c'est très difficile de faire un diagnostic différentiel entre un TOC d'une personne qui a beaucoup d'obsessions, au niveau des maladies et versus quelqu'un qui a de l'hypochondrie. Au niveau des tics aussi, il y a beaucoup de gens qui souffrent de tics avec un syndrome de la Tourette. Ils vont avoir on appelle ça des tics cognitifs, mentaux. Donc là, de différencier ça, qu'est-ce qui vient du TOC, qui vient du syndrome, ça, c'est difficile. Pour quelqu'un qui ne connaît pas ça, puis même qui connaît un peu ça, c'est très difficile. Donc là, d'emblée, de faire le diagnostic différentiel peut amener une confusion.
Annie, dans trouble obsessionnel compulsif, il y a obsession et compulsion. Tout à l'heure, vous avez bien expliqué, je trouve, l'obsession. Là, quand vous donniez l'exemple du rond-point ou de la porte qui est barrée, est-ce que peut-être ma serrure, tout ça. J'ai du mal à faire la distinction entre obsession et compulsion. Comment on pourrait faire cette nuance-là?
Alors, l'obsession, on l'a déjà indiqué, c'est la pensée. Donc, c'est vraiment qu'est-ce qui est le contenu à l'intérieur de la tête. Au niveau de compulsion, c'est les comportements, c'est les actions au quotidien qu'on répète et qu'on répète. J'ai parlé beaucoup de vérification. On va y aller dans un autre type de TOC, celui de la contamination. Alors, la personne va se mettre à nettoyer ses mains compulsivement, donc plusieurs fois par jour. Va commencer à nettoyer sa table de travail, sa maison, sa salle de bain, l'évier. Ça peut être également de compter. Il va y avoir des gens qui vont avoir une compulsion de rituels mentaux. Donc, ça va être de compter tout ce que je fais dans la journée. Puis, il faut tout le temps que ce soit des multiples de 2. Donc, il faut tout ce que je fais dans ma journée, c'est par le chiffre 2.
Donc, le nombre de verres d'eau, le nombre de pas.
Exactement. C'est tout ça qui est dans la compulsion. C'est les gestes, les actions répétitives qu'on fait et qu'on refait au quotidien et que finalement prennent le plus de temps. Parce que le temps qu'on lave, on le passe pas avec nos proches, on le passe pas à faire nos activités, à faire notre emploi. Et c'est souvent ces comportements-là qui font qu'on est en retard dans nos choses.
Et qui a encore plein d'impact, autant sur la vie professionnelle, amoureuse, familiale, du moins sociale. Quelque chose dans votre programmation de cette journée du 15 novembre qui m'a marquée, c'est cette discussion autour des pistes d'intervention pour les enfants ayant un TOC. Je ne savais pas que les enfants pouvaient être touchés par le trouble obsessionnel compulsif. Ça se déclare, ça peut se déclarer quand, le TOC?
Alors, le TOC chez les enfants peut se déclarer vers l'âge de 10 ans. Il y a 1 à 3 % là, en général des enfants qui pourraient être atteints du trouble obsessionnel compulsif. Il n'y a pas de critères qui sont spécifiques chez les enfants. Alors, c'est les mêmes critères que chez les adultes.
Okay.
Les différences qui peuvent être aperçues, c'est plus au niveau des thèmes. Il y a des thèmes qui sont plus fréquents chez les enfants. Par exemple, les thèmes obsessionnels qu'on voit, c'est par exemple lié à une catastrophe imminente, la peur qu'il va arriver quelque chose, que peut-être que je vais me faire mal ou que je vais faire du mal involontairement aux autres. Au niveau, par exemple, des compulsions, c'est des compulsions qui sont plus au niveau, encore là, de la vérification ou au niveau de la symétrie. Mes objets dans ma chambre ou à l'école doivent être faits avec exactitude, avec symétrie. Mes devoirs doivent être faits excessivement bien, ne doit avoir aucune erreur. Ce qui amène beaucoup de répercussions au niveau de la vie, bon, familiale, bien entendu, mais au niveau aussi à l'école. Car le jeune va peut-être avoir du retard dans plusieurs devoirs. Il va avoir du retard à remettre ses exercices à l'enseignante. Et ça peut être difficile pour un enseignant de savoir qu'est-ce que je fais avec cet élève-là qui prend plus de temps à compléter ses devoirs. Non pas parce qu'il ne comprend pas la matière, mais qui est Il y a tellement un besoin d'exactitude, de symétrie, d'avoir toujours les bonnes réponses. Et même au niveau familial, il y a beaucoup de répercussions parce que l'enfant va peut-être s'empêcher d'aller dans des endroits, va peut-être vouloir ne pas utiliser certains objets de la maison. Pour vraiment s'assurer d'avoir tout le temps un environnement qui est contrôlé, un environnement sécuritaire.
Oui, oui. Karine, tout à l'heure, on parlait des recherches parce que vous baignez là-dedans au centre d'études de l'Institut universitaire en santé mentale. Qu'est-ce qu'elles annoncent, ces recherches-là? Est-ce qu'il y a du positif?
Oui, il y a du positif. C'est sûr que à notre niveau, c'est vraiment très spécialisé. Ouais. La recherche est faite au niveau d'un traitement qui a été développée vraiment pour le TOC et la thérapie basée sur les inférences. Donc, elle nous a démontré que ce traitement-là, au niveau des TOC qui étaient plus... on appelle ça des hauts taux de conviction, c'est-à-dire que la personne, elle a très peu d'insight, elle croit beaucoup, beaucoup à sa croyance, un petit peu plus de difficulté à s'en distancer. On le remarque beaucoup dans les phobies d'impulsion, par exemple, la peur d'une dysmorphie corporelle. Mm-hmm. Donc, ce traitement-là va aller travailler beaucoup au niveau cognitif, à amener la personne à avoir un petit peu plus d'introspection. Donc, ça veut dire de regarder un petit peu plus qu'est-ce qui se passe plus de l'extérieur de elle.
De prendre du recul.
Oui, c'est ça, de prendre du recul. Et on ne fera pas de l'exposition ni la prévention de la réponse, là, qui est le traitement privilégié présentement pour le TOC, qui peut très bien fonctionner, mais que malheureusement, il y a beaucoup d'abandon ou de gens qui refusent de le faire. Donc là, ces gens-là qui font l'exposition, prévention de la réponse, puis pour qui ça n'a pas marché, mais souvent, ils se retrouvent un petit peu avec rien. Mm-hmm. Puis là, ils ont l'impression de ne pas recevoir d'aide. Bien, avec ce traitement-là, on leur offre des alternatives, puis ça fonctionne bien. Les études nous démontrent là, que plus de 50 %, là, on va avoir une réduction importante de leurs symptômes, même des fois, vont tomber sous clinique au niveau de leurs symptômes. Donc, n'ont même plus le diagnostic de trouble obsessionnel compulsif.
Donc, on pourrait dire que ça se guérit, le TOC?
Ben ça se guérit. Non,
c'est une bonne question.
On peut pas prétendre que ça se guérit. On peut prétendre qu'on n'a plus de symptômes, donc on répond plus aux critères diagnostiques, mais ça, c'est sur papier. Mais c'est sûr que si, par exemple, on vit un événement très, très important, ça peut réapparaître. C'est comme un peu un cancer. On peut être en rémission, mais des fois, ça peut revenir. Là, oui, c'est chronique. C'est une maladie qui est chronique.
En terminant, qu'est-ce que la Fondation québécoise pour le trouble obsessionnel compulsif peut faire pour les gens, pour les familles, pour les personnes touchées par le TOC?
Bien, au niveau de la Fondation, ce qu'on fait, tout d'abord, là, on a un site Internet. Donc, les gens peuvent aller visiter notre site Internet, fqtoc.com.
Oui, on le mettra sur notre site.
Il y a aussi la page Facebook de la Fondation. Donc, les gens peuvent aller liker notre page. On essaie d'atteindre notre 200. Là, il nous en manque à peu près 10. Là,
on va y contribuer.
On aimerait ça, mais on a aussi une liste de références de psychologues. C'est sûr, malheureusement, c'est au privé, là. Puis on sait que ce n'est pas accessible à tous, mais quand même, on a des noms de psychologues qui travaillent et qui sont spécialisés au niveau du TOC. Ça veut dire qu'ils ont vu plusieurs personnes qui ont cette maladie-là et qui se tiennent à jour au niveau des traitements pour cette maladie-là. Il y a le bulletin annuel qu'on sort à toutes les années, qui est vraiment calqué aussi sur la recherche, là, qui permet vraiment de mettre à jour nos connaissances, puis ça s'adresse autant aux proches, aux personnes atteintes qu'aux intervenants. Et il y a notre bowling annuel qui vise un peu de briser l'isolement, donc les gens qui souffrent de troubles obsessionnels compulsifs, mais aussi les professionnels.
Ouais.
Ils peuvent venir et là, on peut discuter, puis un peu, c'est ça, briser l'isolement parce que souvent les gens, ils se sentent un peu seuls dans leur situation.
Marginalisés, hein?
Oui.
On a également une ligne téléphonique si les gens veulent communiquer avec nous, avoir des informations. On invite également aussi les professionnels. Si des fois, ils veulent avoir des formations, d'autres ressources, aller chercher une meilleure formation au niveau du diagnostic et du traitement, on les invite à nous contacter. On a des contacts pour des formations quand même assez fréquentes là, dans le milieu de la santé sur le trouble obsessionnel compulsif.
Et bien sûr, il y a cette journée samedi 15 novembre à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, donc journée annuelle pour le trouble obsessionnel compulsif. Je répète l'adresse de la Fondation FQ. toc.com, également www.iusmm.ca. Toujours une très, très bonne source d'information, cet Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Annie Surprenant, étudiante au doctorat en psychologie. Karine Bergeron, coordonnatrice justement de ce centre d'études et tous deux de la Fondation pour le trouble obsessionnel compulsif. Merci beaucoup de votre présence, très appréciée.
Merci, merci à vous.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_m.
Bonjour Ariel Paco.
Bonjour.
Merci d'être là. Le vitiligo qui touche en moyenne 5 personnes sur 1000. Et ça, le vitiligo, il ne fait pas de préférence là, entre les hommes, les femmes, la couleur de la peau et également l'âge. Vous avez une petite fille de 9 ans qui vit avec le vitiligo. Et c'est un petit peu, j'imagine, à l'origine du désir de créer cet événement, la peau dans tous ses états, le 14 novembre. Ça a quel genre d'impact dans votre vie au quotidien? Et justement dans la vie de cette petite fille?
Ben, au quotidien, moi, j'essaye de ne pas faire de différence, justement, parce que pour moi, c'est une petite fille comme une autre. Donc, pour moi, elle a à vivre comme tout le monde. Par contre, elle, dans certaines situations, ça va lui amener à devoir faire face à certains commentaires, certains regards, certaines situations qu'elle, elle va mal vivre, que ce soit surtout dans les endroits publics, parce qu'il y a énormément de monde et souvent, c'est les regards. Pas besoin de parler, là. Souvent, le regard de la personne, en fait, trahit beaucoup. Donc, elle le voit maintenant. Quand elle était plus jeune, elle s'en rendait pas trop compte parce qu'elle était vraiment trop petite. Mais maintenant, où elle arrive à un âge où elle est capable de comprendre et puis d'entendre, de comprendre les réflexions, de voir les regards, ça l'affecte beaucoup plus. Oui. Donc, c'est un petit peu pour ça, moi, parce que moi aussi, c'était quelque chose que je connaissais pas. J'ai appris à le connaître à travers elle.
C'est peu connu en général, le vitiligo.
Oui, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'associent à quelque chose d'autre. Donc, en fin de compte, soit ils pensent que c'est des brûlures, ils pensent que c'est comme une lèpre, que c'est contagieux. Donc, c'est un peu ça que j'essaye de casser, là. C'est un petit peu cette image, là, de...
Tous ces mythes, là.
C'est ça.
Oui. Et même, et je le disais tout à l'heure en introduction, même Michael Jackson, on lui reprochait de s'être fait blanchir la peau.
Oui.
Et même si c'est dermatologue et tout le monde, son entourage démentait ça. Et
oui,
ça restait quand même dans l'imaginaire collectif. 5 personnes sur 1000, ça reste peu quand même, peut-être parce que c'est ce qui fait qu'on n'en parle pas beaucoup, que ça reste méconnu, le vitiligo. Est-ce que c'est pour ça qu'on en parle si peu, d'après vous, notamment au Canada?
Je pense que c'est surtout qu'il y a une grosse gêne. Donc, les gens ne veulent pas en parler parce qu'ils ne veulent pas que ça se sache. Mm-hmm. Comme justement, il y a beaucoup d'incompréhension autour de ça et puis qu'il y a une image assez négative. Donc, en fait, les gens préfèrent le cacher et ne pas en parler. Donc, en fin de compte, en ne l'abordant pas et en le cachant, on n'en parle pas. Et puis, ça passe un petit peu sous le tapis. Mais par contre, il y a des personnes pour qui c'est plus difficile à cacher. Donc, pour eux, ça va être un peu plus difficile. Il y en a qui vont très bien le vivre. Ça va dépendre de l'âge de la personne. Ça va dépendre du caractère de la personne. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont plus... qui ont moins de difficultés à affronter ce genre de problème-là. Et il y en a d'autres, ça ne va pas déranger du tout.
Ça peut survenir à n'importe quel âge, le vitiligo?
Oui, il n'y a pas d'âge, pas de couleur de peau, pas de... C'est tout le monde. Ça peut arriver à n'importe quel âge.
Mm-hmm. Est-ce qu'on connaît les causes? Est-ce qu'il y a une forme héréditaire, par exemple?
Il peut y avoir, comme on en avait parlé avec Mme Ouellette la dernière fois, c'est...
Avec Luc Fortin, avec mon collègue, oui.
C'est une des choses qui peut être à l'origine, mais il n'y a pas que celle-ci, en fait.
Et quelles sont les autres causes?
Ça peut être, ils disent que ça peut être un facteur héréditaire, ça peut être auto-immune, ça peut être un choc, un stress, une maladie qui a été mal soignée, un coup de soleil. C'est des facteurs déclencheurs, en fait.
Hein. Oui. Puis, il n'y a pas beaucoup d'emprise, d'après ce que j'ai cru comprendre. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si la maladie peut empirer, si ça peut se résorber, puis qu'on ait peut-être de l'alcalmie. Et c'est ça qui est un petit peu peut-être anxiogène.
Bah, disons qu'en fin de compte, c'est un petit peu un cercle vicieux. C'est plus la personne va être stressée, plus la maladie va se développer.
Oui.
Donc, en fin de compte, comme pour le moment, c'est pas encore une maladie qui est bien connue, on n'arrive pas trop à comprendre pourquoi certaines personnes vont l'avoir et pas d'autres. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que ça n'aide pas.
Oui. Le nom m'échappe, mais de cette mannequin très, très connue qui, en ce moment, pose...
Oui, il y a une jeune mannequin qui est originaire de Toronto qui s'appelle Chantelle Winnie, qui, en fait, s'est lancée un petit peu dans le modeling, un petit peu par hasard, mais en fait, ça fait un gros buzz parce que justement, elle a servi un petit peu de modèle à toutes ces personnes qui, mm-hmm. qui ont senti un petit peu comme... Bah, elle les représentait et puis elle, c'est ce qu'elle veut aussi.
Elle est magnifique.
Oui, elle est superbe. C'est pour ça que c'est un petit peu l'image aussi. C'est qu'on peut casser un petit peu l'image du vitiligo négatif, le vitiligo un petit peu péjoratif. Là, et en fin de compte, s'apercevoir que c'est des personnes comme les autres. Elles ont une beauté. Et puis, c'est ça, il faut le prouver.
Est-ce que vous voyez des impacts positifs de la sortie de cette mannequin-là?
Oui, moi, je l'ai vu par rapport à ma fille.
Ah oui?
Parce qu'en fin de compte, justement, elle avait quelqu'un vers qui elle pouvait se dire, ah ben, elle y arrive, même si elle a du mal à se dire, ben, moi, je suis comme elle. Mais en fin de compte, elle l'admire. Hein. Donc, elle sait que...
Et il y a un modèle d'identification qui peut se créer, dire, ben... On dirait que je ressemble à personne, mais là, ah, OK, je peux peut-être ressembler à cette femme-là.
Oui. Ben, elle s'identifie, puis en même temps, c'est quelque chose, elle peut dire, ben, oui, j'ai le vitiligo, mais elle, ça ne l'a pas empêché.
Oui.
C'est un petit peu dans ce but-là aussi, c'est de montrer un petit peu le côté positif et dire, ben, tu vois, c'est pas un frein, c'est... Elle, ça ne l'a pas empêché, il faut continuer à avancer et puis il faut prouver justement que ce n'est pas une barrière et qu'il n'y a pas à avoir de points négatifs par rapport à ça, que ce soit pour une embauche ou à l'école ou quoi que ce soit.
Oui. Cette journée du 14 novembre, donc, qui se déroulera au mai, la peau dans tous ses états, c'est le but également de réunir ces gens-là et de leur montrer qu'ils sont uniques et magnifiques.
Oui. Et puis c'est surtout aussi de leur faire comprendre qu'ils ont une beauté, donc par le shooting photo qu'on fait avec Stéphanie Korn, qui en fait, toutes ces photos-là vont en fait être prises et après elles vont être incluses à sa galerie de portraits qui va être un petit peu véhiculée. Mais le but, c'est un petit peu de faire voir la couleur, quelque chose de différent, de beaucoup plus gai.
Oui, l'unicité.
Puis, oui, c'est ça. Et puis en même temps, de faire voir que ça existe aussi ici.
Oui.
Et d'inclure le Canada dans cette lutte un petit peu pour...
La peau dans tous ses états, donc j'invite les gens à aller sur votre page Facebook, Arielle Paco. Salutations à votre fille.
Merci.
Et merci beaucoup de votre présence et de parler de cette maladie de peau dont on parle trop peu.
Merci beaucoup.
Jean-Sébastien Laliberté à la console, merci beaucoup, mon cher Marianne Paquette au micro, qui vous donne un rendez-vous demain. Je vous rappelle qu'on est en rediffusion à 17h, 1-800-361-0635, poste 220 pour nous joindre. Je vous embrasse. À demain.